Chers auditeurs, bonjour de vous retrouver sur FM+, Jean-François Martinez. Et aujourd'hui, donc, notre grand invité, ce sera Monsieur Dufourneau, je le dis bien. Donc, on va parler recherche, on va parler technologie, on va parler science, on va parler bien-être, on va parler aussi maladie, Parkinson. Et avec, donc, Matisse, notre élève, on va dire, en première année d'école de journaliste. Bonjour, cher stagiaire. Comment vas-tu? T'as passé un bon week-end?
Oui.
Bon, mais c'est parfait. Monsieur Dufourneau, donc vous êtes doctorat en sciences du mouvement humain.
C'est ça.
Co-fondateur des projets BeanMove et
Beatles,
voilà. Hein. Vous travaillez donc avec le professeur Hubert Blenck, qui est gérontologue au CHU de Montpellier, et aussi de Pierre-Louis Bernard, qui est assistant chercheur. Chercheur à Montpellier, c'est bien ça?
C'est ça, oui, exactement, STAPS de Montpellier.
Ouais. Ça, c'était prévu dans votre cursus à vous, ou c'est venu petit à petit?
L'idée de faire de la recherche a mis un petit peu de temps dans ma tête avant de venir. En fait, j'ai pas fait mes études ici, je suis arrivé à Montpellier justement parce qu'il y avait cette filiale-là, et en fait, en faisant un stage, puis un deuxième, en fait, ça m'a beaucoup intéressé. Donc, je me suis dit que j'aimerais travailler dans la recherche, et notamment pour la santé.
Ben, c'est très bien. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes cofondateur de projets, on y reviendra tout à l'heure. Mais il y a aussi un centre de recherche qui est basé à Montpellier. Le centre de recherche s'appelle Euromove. Et qui travaille donc sur les sciences du sport. Les neurosciences cognitives, la perte d'autonomie chez les personnes âgées. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça, les sciences du sport?
Oui, en fait, on est issu de STAPS, donc qui sont les sciences techniques des activités physiques et sportives. Donc, il y a un peu plusieurs doctorants, des chercheurs spécialisés dans le domaine de la performance, mais aussi l'activité physique, notamment pour la santé. On cherche en fait à étudier notamment plein de choses, que ce soit au niveau cérébral, au niveau biomécanique, donc dans la marche, la course à pied, le vélo, mais aussi dans les capacités respiratoires. Enfin voilà, il y a vraiment tout un côté vraiment pluridisciplinaire en fait, qui sert à améliorer les connaissances et parfois les performances, ou le bien-être, ouais, justement, chez la population.
Et ça, vous le travaillez sur des sportifs de haut niveau? Alors, pas forcément des personnes âgées ou des personnes qui ont un problème de mobilité?
Alors moi, pour ma part, c'est vraiment pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Hein.
D'accord.
Je suis vraiment spécialisé là-dedans, mais il y en a par contre en laboratoire, oui, qui travaillent chez des athlètes de haut niveau. Hein.
Et dans la, justement, dans la prévention des chutes pour les personnes âgées, qui est quand même quelque chose de très important, qu'est-ce que vous faites de... Qu'est-ce que la société fait pour ces personnes-là?
Alors en fait, nous, on propose un dispositif donc, d'aide à la marche,
oui,
justement, qui s'appelle BeatMove. On l'a d'abord testé dans un premier temps dans la maladie de Parkinson, et on a montré dans une étude qu'on a réduit le nombre de chutes en fait, chez ce public-là, et la peur de chuter. À quoi cela est dû en fait? C'est que le dispositif permet d'améliorer la vitesse de marche, et la vitesse de marche est l'un des premiers prédicteurs du risque de chute, finalement. Donc, d'accord, autrement dit, plus on marche vite, moins on a de chances de tomber, et donc d'avoir des problèmes de santé à l'avenir.
D'accord.
Et donc, c'est sur ce principe-là que nous, en fait, on agit sur la prévention des chutes et l'autonomie chez les personnes âgées, mais aussi ayant des troubles de la mobilité.
D'accord. Mathis, peut-être une question pour les seins?
Non, pas pour l'instant.
Et la perte donc, d'autonomie chez les personnes âgées, ça représente un pourcentage important dans la vie d'une personne âgée ou pas?
Alors ça peut représenter quelque chose d'important, notamment par exemple les chutes. Il y a un tiers des plus de 65 ans qui tombent.
Un tiers des plus de 65 ans?
En France à peu près, oui. Et dont la moitié qui rechute souvent l'année suivante. Donc il y a un réel enjeu parce qu'en fait la chute souvent s'accompagne d'une fracture, d'une hospitalisation, et ça représente des coûts assez colossaux en termes d'assurance maladie ou chez les mutuelles. Donc ça a un réel en fait. La chute est vraiment quelque chose qui témoigne vraiment en fait de la perte d'autonomie chez ce public, oui.
D'accord. Les neurosciences cognitives, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet?
En fait, là-dessus, alors je vais partir surtout sur ce que nous on maîtrise dans la société, c'est que en fait chaque mouvement est guidé en fait par notre cerveau finalement. Et qu'en fait, si on a une fonction qui n'est pas saine dans notre cerveau, bah, le mouvement peut être réalisé de manière plus difficile. C'est ce que nous, notamment, on a montré dans la maladie de Parkinson au niveau des ganglions de la base. Et en fait, il existe des moyens, en fait, justement, de contourner un peu ces problèmes-là. Notamment quand par exemple on fait écouter de la musique, au lieu d'initier le mouvement, de réguler le mouvement par les ganglions de la base, la musique fait passer par le cervelet par exemple.
D'accord.
Donc c'est comme si, je prends un exemple un peu naïf, mais par exemple vous êtes sur la route, vous êtes bloqué, il y a des bouchons, le GPS va vous donner un autre endroit. Ben, la musique, elle fait le même travail.
D'accord.
Et ça permet...
Elle évite le bouchon.
C'est ça, exactement. Elle évite le bouchon et elle contourne le problème. Voilà, c'est surtout ça. Et au-delà de ça, en fait, ça permet aussi potentiellement de rééduquer justement certaines voies neuronales, de réactiver des zones justement qui ne sont habituellement pas activées ou peu activées.
Et là, vous travaillez sur ce projet, on va dire musical, depuis combien de temps ?
Moi, ça fait depuis début d'année 2023 que je suis arrivé. Dans un premier temps, je me suis vraiment occupé d'une partie un peu communication du dispositif auprès des associations. Depuis plus d'un an, voilà, je m'occupe de la partie R&D, donc je lance des études justement pour améliorer le dispositif, proposer chez de nouveaux publics, voilà. Donc il y a vraiment tout un aspect il y a eu pas mal de boulot depuis 2 ans.
Donc le thème, c'est la musique, mais quand vous avez fait vous prédécesseurs, quand vous avez donc fait ces recherches, il y a la musique, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, autre chose ? Je ne sais pas. D'autres thèmes qui auraient la même importance que la musique.
Alors, effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être utilisés.
Par exemple, le théâtre, par exemple, la danse, par exemple, l'art. Pourquoi la musique ?
Effectivement.
Je vous titille un peu là.
Ah oui, non, mais faux.
Bon.
Alors, effectivement, nous, c'est vrai qu'on utilise énormément la musique parce que... c'est quelque chose en fait qui a énormément grandi depuis ces dernières années pour la petite histoire, nous on travaille dessus parce qu'en fait c'est considéré aujourd'hui comme du dopage technologique. C'est pour ça qu'aux Jeux Olympiques les athlètes n'y ont pas le droit, mais en fait effectivement il y a selon les publics et les sensibilités de chacun, il y a plusieurs façons en fait de travailler la rééducation, la danse par exemple pour Parkinson. Si on prend l'exemple de la danse, il y a le tango qui marche super bien chez ce public-là en fait.
Pourquoi c'est un rapprochement des corps
En fait, c'est un rapprochement des corps, c'est un tempo qui est très marqué, la pose du pied au sol, en fait, c'est quelque chose qui nous donne un peu le rythme.
Ouais.
Mais il y a aussi tout ce qui est aspect, mais par exemple aussi, comme vous dites, le théâtre, par exemple, ou l'écriture, en fait, ça permet justement tout un aspect, en fait, de contrôler son mouvement, de maîtriser quelque chose, de faire une tâche, on va dire, fine, c'est-à-dire, en fait, qui demande une certaine précision. Donc, nous, on travaille énormément sur la musique parce que c'est notre spécialité, mais il y a d'autres possibilités, bien évidemment.
Non ? Toujours pas, Mathis ? Toujours pas. Bon, ça viendra. Ça viendra.
Il faut.
Donc, la musique... Alors, vous nous avez fait la description juste avant l'émission. Donc, c'est quoi ce que vous faites pour pour les personnes ? Alors, est-ce que c'est uniquement pour les personnes atteintes de Parkinson ou ça peut être pour des personnes atteintes d'un AVC ou autre chose ?
Alors, pour l'instant, donc on a concentré nos travaux de recherche sur Parkinson.
Donc, on
pousse vraiment sur Parkinson.
Pourquoi sur le Parkinson ? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont le Parkinson.
Par la maladie de Parkinson, c'est la deuxième maladie neurodégénérative en France, avec près de 275 000 cas en France et 25 000 nouveaux chaque année.
25 000 cas
par an qui arrivent de nouveau.
En France ?
En France. Donc on a énormément travaillé là-dessus, puis on savait qu'il y avait un lien étroit entre la musique et chez ce public-là, et donc les études ont été énormément concentrées là-dessus. Par rapport aux autres publics, en fait, on suppose qu'effectivement ça peut fonctionner parce que la musique et la neuroscience, c'est vraiment rattaché. Donc on peut clairement supposer que pour AVC ou pour d'autres publics tels que la sclérose en plaques, notamment, on pourrait avoir des bienfaits sur ces pathologies. Néanmoins, les études sont en cours, donc on ne peut pas non plus encore dire si ça a vraiment fonctionné ou pas. Et donc pour l'instant, on pousse énormément sur Parkinson parce qu'on sait qu'on a prouvé des effets et qu'on les montre toujours.
Et là, donc, pour les personnes atteintes de Parkinson, vous les prenez d'entrée ou il faut un certain temps? Alors, ça, racontez-nous un peu, M. Dufourneau, vous, le Parkinson, c'est quand même assez... Malheureusement, ça progresse dans le mauvais sens. Donc, à quel niveau vous prenez en compte votre technologie?
Alors, en fait, il y a plusieurs cas possibles. Donc, il faut savoir que, bien que Parkinson, ça ait des symptômes que l'on peut identifier, un patient n'a pas du tout les mêmes symptômes qu'un autre. C'est hyper inter-individuel. Donc, en fait, ça dépend. C'est le patient qui vient nous voir, souvent. Donc, il vient nous voir et dit, voilà, j'ai des troubles de la marche. Souvent, il y a un trouble de la marche qui est assez évident, c'est-à-dire du freezing... la lenteur, la rigidité des pas ou vraiment les tout petits pas. Et là, là, c'est à partir de ce moment-là, généralement, qu'on pense que c'est pertinent pour cette personne-là d'utiliser l'appareil. Il n'y a pas forcément... bien sûr, si la personne marche déjà très bien comme ça, souvent, on ne va pas... Enfin, voilà, elle peut tester, mais bon, on va dire que ça va être plus du maintien et de la prévention primaire pour essayer d'anticiper justement ce qui peut arriver après. Donc vraiment, on touche sur vraiment dès qu'il y a quelques symptômes qui apparaissent, mais que ce soit pas non plus trop handicapant pour que la personne, enfin, au point que la personne ne marche plus en fait. Enfin, faut que la personne soit capable de marcher au moins 15 minutes. On va dire que ça, c'est la limite, vraiment la limite basse. Mais après, là où c'est plus pertinent, c'est vraiment quand il y a des troubles de la marche, vraiment, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai présenté.
C'est quand même bizarre que la musique arrive à stimuler.
Oui, c'est ça.
L'individu.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, ça nous stimule tous en soi. C'est que nous, on
Marie, c'est vrai que la musique stimule. Hein, quand c'est vous ça. Entendez la musique dans votre voiture ou chez vous, on a toujours tendance à bouger, à danser. Et là, donc, c'est pareil pour les personnes atteintes d'un Parkinson.
C'est ça, exactement, en fait. Hein, tout se passe littéralement dans le cerveau, en fait. Hein, c'est que la musique permet en fait de stimuler d'autres voies neuronales et donc de faciliter le mouvement. Et donc, c'est ça qui peut le rendre plus fluide chez ce public-là, oui.
Très bien. Eh bien, on va peut-être faire une pause musicale, chère Léonie. Alors, monsieur Dufourneau, vous avez choisi quoi comme chanson?
Je choisis Dance Monkey.
Voilà. Eh bien, on va écouter donc la chanson et on est toujours sur FM+. À tout à l'heure.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. One more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do. Boy, they say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more.
Voilà, après cette très 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 belle chanson, donc on revient avec notre invité, monsieur Dufournoux, qui est donc docteur en sciences du mouvement humain, ça se trouve que c'est magnifique, cofondateur des projets Bean Move et Bean IRL. Voilà, avec mon anglais très très limité, et donc avec Mathis. Mathis, peut-être une question à poser.
Ouais, ah. J'en avais une. Alors, vous avez énoncé avant, pour les troubles dégénératifs, la danse, le théâtre, la musique. Est-ce que c'est surtout des choses qui touchent, on va dire, le mouvement ? Par exemple, du coup, le théâtre, ça fait bouger, ça fait des mouvements fermes et des mouvements contrôlés. Donc, est-ce que c'est justement la prise de conscience des mouvements qui aide à on va dire, à aider justement à retrouver ces...
Cette certaine fluidité dans les mouvements, ces choses comme ça.
Alors non, plus justement pour, par exemple, si quelqu'un a du mal à marcher, est-ce que du coup, en lui faisant faire des mouvements, justement, avec ses jambes, justement, de la danse, est-ce que du coup, son corps va, on va dire, plus s'imprégner, enfin, on va plus...
En fait, c'est comme en fait un réapprentissage finalement.
C'est ça, comme une rééducation. Oui.
C'est comme voilà un réapprentissage en fait. Ce qu'on nous dit souvent, par exemple, dans les troubles, notamment Parkinson, c'est que des fois la marche redevient manuelle, c'est-à-dire qu'on doit réfléchir à marcher, on doit réfléchir à faire un mouvement. Et effectivement, la rééducation par la musique peut justement forcément rendre re-automatiser les choses. Et de toute façon, même nous, il suffit de le voir, en fait, quand on apprend à faire un mouvement, au début, on le fait consciemment, et après, après automatiquement, en fait, on ne se rend même plus compte qu'on le fait. Donc oui, il y a clairement... c'est clairement possible. Alors après, tout ce qui est aspect théâtre, je ne connais pas toutes les études, bien sûr, mais on peut supposer qu'effectivement, oui, bien sûr, c'est le cas. Hein.
Ok.
Alors, merci Mathis. Donc tout à l'heure, vous nous avez parlé donc des Parkinson. Vous êtes donc en contact avec eux en permanence, avec France
Parkinson, c'est Parkinson, ça l'association. C'est ça.
Ouais. Donc le Parkinson, est-ce que c'est quelque chose que l'on porte en soi depuis un certain temps ou ça arrive brutalement suite à un événement très important dans la vie de quelqu'un.
Alors, la maladie de Parkinson, alors, je ne suis pas sûr qu'on naisse avec le gène de Parkinson. Normalement, il y a des facteurs qui peuvent favoriser justement l'arrivée de la maladie et même de plus en plus tôt, notamment par exemple les pesticides.
Les pesticides.
Voilà, les pesticides, en fait, on a trouvé un gros lien en fait, entre les pesticides et justement l'arrivée de la maladie de Parkinson.
Donc les agriculteurs sont touchés.
Il y a pas mal, oui. Alors je connais pas les proportions exactes, mais bon voilà, sûr que les agriculteurs sont sûrement les plus exposés, puis bien sûr ceux qui en consomment directement.
Bien sûr, hein. Bien sûr.
Donc il peut, donc oui, forcément il y a les pesticides.
C'est quoi, c'est ces vapeurs qui montent au cerveau, c'est comme ça.
Alors là pour le coup, c'est vraiment interne au cerveau, donc là je préfère ne pas
d'accord, mais c'est vrai que les pesticides, j'ai beaucoup entendu dire aussi que les agriculteurs malheureusement sont très touchés par cette maladie.
Oui, et là de plus en plus d'études en fait montrent effectivement qu'il y a une corrélation entre les deux.
OK. Et cette corrélation, c'est-à-dire donc ces gens-là ont les prémices d'un Parkinson et ils se déclenchent combien de temps après?
Ah bah là ça peut dépendre en fait.
Ça dépend de la personne, ça dépend.
On sait pas, hein. En fait, si vous voulez, il y a des patients parkinsoniens qui ont la maladie assez jeune, enfin on peut dire jeune maintenant parce qu'il y en a à 40 ans, ils sont diagnostiqués, ce qui est quand même est assez inquiétant parce que en fait ce n'est pas une maladie qu'on obtient vers la fin de vie, hein, du tout. Donc ça peut mettre ça peut arriver très vite comme ça peut arriver bien sûr à 65 ans, 70 ans, mais voilà. La moyenne d'âge elle continue de baisser en fait.
C'est désolant quoi.
C'est désolant. Ouais. Alors c'est triste parce qu'on peut on arrive quand même à le diagnostiquer. On arrive à le diagnostiquer, mais le problème c'est qu'effectivement le problème c'est que ça ne va pas dans le sens où il y en a de moins en moins, ou alors ça retarde en âge. Hein.
Donc vous avez ce qu'on a discuté donc tout à l'heure. Alors pour nos auditeurs, décrivez-le. C'est quoi au juste? Votre technique à vous.
Alors la technique Bitmove en fait c'est donc on utilise un téléphone qui contient l'application donc sur un smartphone.
D'accord.
Donc en fait on utilise une paire d'écouteurs et deux capteurs que l'on met au niveau des chevilles.
Mmh.
En fait, on lance donc l'application, on peut choisir nos styles musicaux qu'on veut écouter, donc disco, pop, variété, enfin voilà, ce que l'on veut. Ce sont des musiques qu'on appelle fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ont une cadence qui est en fait rythmée, donc qui est régulière, justement parce que la marche est une activité régulière. Et donc, une fois qu'on a choisi nos morceaux musicaux, on met nos capteurs au chevilles, on lance une séance, donc par exemple 30 minutes. La première minute, il n'y a pas de musique, en fait, c'est normal, c'est une minute d'évaluation, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, en fait, où les capteurs vont détecter la pose du pied au sol, et donc, à partir de ça, vont mesurer la cadence de pas. Donc, par exemple, la personne va marcher à, je ne sais pas, 100 pas par minute. Et à la fin de cette minute de marche, la musique se lance. Et là, la musique, elle est parfaitement synchronisée à la cadence de marche du
Alors, utilisateur. Est-ce que c'est la musique ou c'est le rythme?
C'est la musique.
C'est la musique.
C'est le tempo induit par la musique, donc le boum, boum dans la musique.
D'accord. Et si, alors, question peut-être bête un peu, si on prend une musique classique, qui a pas, ou alors une musique où il n'y a pas un rythme, comment ça se passe? Il faut vraiment. Alors, est-ce que ce sont des musiques quand même adaptées ou pas?
Oui, alors en fait, alors ce sont vraiment des musiques dont en fait on arrive vraiment à entendre le battement de la musique. En fait, c'est vraiment enfin des musiques dont on entend en fait le tempo, quoi.
D'accord.
C'est pour faciliter justement, forcément, la synchronisation, parce que l'être humain a tendance à se synchroniser avec de la musique, hein, même quand on marche entre nous. Hein. Si vous marchez à côté de quelqu'un, vous verrez. Et donc oui, voilà, c'est vraiment la musique en fait qui module son rythme en fait, c'est-à-dire que des fois elle va ralentir ou accélérer de manière en fait à toujours suivre en fait la cadence de la personne.
D'accord.
Et si vraiment il y a un changement trop brutal de rythme, en fait la musique elle change complètement, mais elle sera toujours adaptée à la marche de l'utilisateur.
À la marche de la personne.
C'est ça.
Et si la personne justement s'arrête sur un banc pendant une minute, deux minutes, la musique continue ou la personne appuie sur son téléphone pour arrêter.
Alors il y a un bouton pause. Il y a un bouton pause, c'est le mieux. Donc voilà, vous appuyez sur pause et en fait il n'y a plus de musique.
Et ça repart après.
Voilà, bon, on remet play et en fait après ça repart et la musique se resynchronise quasiment immédiatement, quoi, très rapidement. Hein, voilà.
Et là vous préconisez par exemple pour quelqu'un qui a un Parkinson ou qui a une maladie dégénératrice, vous préconisez quoi? Une demi-heure de marche par jour, une demi-heure, un quart d'heure le matin, un quart d'heure l'après-midi, pour quelqu'un qui aime déjà auparavant la marche?
Bien
comment
sûr.
Ça se passe?
Alors nous on se base sur les recommandations de l'OMS qui préconise de faire 5 séances de 30 minutes par semaine. Alors après on s'adapte en fonction des capacités de chaque participant. 30 minutes, c'est vraiment l'idéal. On va dire que c'est vraiment, voilà, on suit les recommandations de l'OMS, c'est très bien. On s'adapte en fonction des recommandations. Certains veulent marcher une heure, deux heures. Souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on a quelqu'un qui nous contacte, et qui a l'appareil, on l'appelle, on lui demande en fait quels sont un peu ses objectifs, on veut dire qu'est-ce que la personne veut faire finalement, quoi. Parce qu'en fait il faut aussi éviter l'aspect de trop en faire et justement de provoquer une fatigue alors que ce n'est pas censé être le cas. Donc vraiment nous on bloque sur 30 minutes pour l'instant. Après ça peut être 15 si vraiment il y a plus de difficultés, et après on y va crescendo si la personne veut aller plus loin.
D'accord. Donc là, vous recherchez, si j'ai bien compris, pour améliorer aussi votre système, bon, qui doit être quand même au point, il n'y a pas de souci là-dessus, mais pour l'améliorer ou pour trouver autre chose, vous avez besoin donc de personnes.
Exact. Hein,
et on va en parler tout à l'heure, mais surtout les personnes qui sont équipées de ce matériel, vous les voyez chaque combien pour faire justement le point?
Alors, c'est extrêmement variable en fait. Ça dépend en fait des. Nous en fait, on prend tous les retours quand on contacte les personnes. On leur dit vous nous rappelez quand vous voulez pour avoir des retours. Donc ça dépend énormément. Il y en a certains, on les a quasiment tous les mois.
Pour faire le point.
Tous les mois, quasiment, on fait le point avec eux. Voilà, comment ça s'est passé, etc. Alors, on les a par téléphone, bien sûr, parce qu'on a on a des clients dans toute la France, donc.
D'accord. Okay.
Donc, bon, on va pas se déplacer partout.
Rappelez où c'est que vous êtes installé aussi.
Nous, on est à Montpellier.
Oui, vous êtes où à Montpellier?
On est à Montpellier, donc au nord de Montpellier, à côté du STAPS, en fait.
Oui, d'accord.
Donc, dans le laboratoire Euromove.
D'accord.
Voilà, il y a un incubateur d'entreprise et nous, on est là-dedans.
D'accord. Ok. Très bien.
Et donc oui, en fait, alors ça, c'est très variable en fait d'un utilisateur à un autre. Donc on a des points à peu près tous les mois, tous les deux mois avec certains, où on fait un petit bilan, bon aussi sur le matériel, hein, si voilà, il n'y a pas eu de problème et quoi que ce soit, voilà.
D'accord. Et là, en fonction de l'évolution de la maladie, est-ce que vous adaptez votre système?
Alors,
Peut-être pas encore, parce que la technologie demande un certain temps.
Pour le coup, le système est assez jeune, donc il se contente surtout d'adapter à la cadence de marche de l'utilisateur. Donc s'il y a malheureusement un déficit de santé trop important qui empêche de marcher ou quoi que ce soit, là non, on n'a malheureusement pas de solution à proposer. Voilà, le dispositif il est tel qu'il est. On peut pas. Voilà,
Est-ce que c'est le même dispositif que pour une personne qui n'est pas atteinte de Parkinson, mais qui a des gros problèmes de mobilité?
Oui, alors en fait, on utilise le même dispositif parce que, en fait, vu qu'on utilise la musique qui s'adapte à la cadence de marche, il faut bien en fait qu'on ait le même matériel. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut les capteurs. Sinon, bah, juste il faut écouter de la musique comme on en écoute à la radio ou sur les plateformes de streaming. Mm-hmm. Donc oui, c'est le même matériel.
D'accord. Donc pour faire appel. Donc vous faites appel à des personnes donc atteintes de Parkinson ou d'autres maladies, malheureusement. Comment vous faites pour justement faire venir ces personnes-là?
Dans le cadre d'études,
dans le cadre d'études, bien sûr, parce que c'est très important, je suppose, les études.
Oui, bah alors, bon, alors nous,
comment ça se passe?
Soit on fait des partenariats avec des établissements. Donc, par exemple, on a travaillé avec la clinique Beau Soleil pour Parkinson.
Oui.
Et sinon, on voit avec les associations aussi.
Il y a des associations.
Il y a l'association France Parkinson notamment, hein, qui nous accompagne, qui nous permet en fait de communiquer le dispositif et qui nous a aidé dans une étude de grande ampleur aujourd'hui, dont les résultats vont arriver prochainement. On fait pas mal de canaux de communication, mais aussi ceux qui sont vraiment spécifiques liés à la pathologie, quoi. Mmh. Vraiment, donc les cliniques, les associations,
D'accord. Et là, vous travaillez sur quelle nouvelle technologie, on va dire? Par exemple, une question bête, vous avez donc des brassards qui s'adaptent aux chevilles des patients. Est-ce que, par exemple, il peut y avoir aussi des brassards qui s'adaptent aux poignets? Est-ce que, pour justement la motricité supérieure des membres?
Nous, on se contente vraiment de travailler sur la marche. Alors, par contre, on a fait de la recherche et développement une grosse partie l'année dernière, on continue encore pour améliorer le dispositif justement,
oui,
pour essayer de le rendre le plus efficace possible et surtout le plus pratique possible pour les utilisateurs, notamment ces capteurs qu'on essaye de placer ailleurs notamment. Mais alors, par contre, cette question est intéressante notamment pour la motricité des membres supérieurs, parce que on a montré que quand on utilise le dispositif, il y avait certains patients qui retrouvaient la mobilité du bras, en fait.
Ah bon ?
Exact. Et oui, en fait, étant donné que on améliore la marche, donc en fait, parce que le cerveau s'adapte, mais le cerveau, il contrôle tous nos gestes. Donc en fait, certains patients, par exemple, retrouvent la mobilité du bras lorsqu'ils marchent avec le dispositif.
Donc c'est encourageant, ça, pour vous ?
C'est super encourageant. Alors, c'est parce que chez beaucoup de patients, on a des effets toujours qui se voit. Et oui, il y en a, c'est du bras, d'autres le redressement. En fait, on n'a pas forcément besoin de bracelet forcément partout sur le corps. Juste écouter la musique qui s'adapte suffit des fois pour...
C'est quand même une avancée importante. Hein.
Ce qui est assez encourageant, surtout pour nous, et pour les patients, parce que ça montre aussi effectivement que en fait, on peut avoir des effets au-delà de la marche finalement.
Et là, donc, vous disiez tout à l'heure que vous travaillez pour beaucoup de départements ou de régions. Vous êtes le seul centre français implanté à Montpellier où il y a par exemple Renoux qui peuvent être dans le 13, qui peuvent être dans d'autres départements.
Alors nous, Beatles, on est vraiment une start-up, hein, donc on est que basé à Montpellier. Alors bien sûr, on a des collègues qui sont un peu éparpillés en France, mais on fait les globe-trotters globalement, on part de Montpellier et puis...
Alors comment on fait justement pour tous les Montpellierains, mais pas que, hein, tous les Français, pour justement venir vous voir? Quel est le parcours?
Il suffit juste en fait d'aller sur notre site et nous contacter.
C'est tout.
Besoin de rien d'autre, ils nous contactent. On a un numéro, on a une ligne de téléphone qui est une messagerie vocale, où il faut juste laisser un message vocal ou nous contacter par mail et après nous on répond. Il n'y a pas besoin de faire davantage, quoi que ce soit d'autre.
Vous faites venir, vous rencontrez donc le patient?
C'est ça, en fait, si on n'est pas loin de là où il se situe, ben on vient le voir en présentiel parce que c'est toujours mieux, en fait. C'est toujours mieux pour expliquer le matériel. Bien sûr. Et sinon, ben, c'est par téléphone, mais voilà, on répond à toutes les questions. Et puis, on est là pour toutes les interrogations qu'ils ont.
C'est un matériel qui est abordable financièrement ou pas ?
Parce
qu'il faut en parler.
Oui, ah non, mais bien sûr. Bah,
est-ce que c'est remboursé par la Sécu ?
Alors non.
C'est pris en charge par les mutuelles ?
Alors non, pas par les mutuelles, par contre, certaines caisses de retraite le prennent en charge.
D'accord.
Donc on a, en fait, on agit sous location. Donc en fait, on a demandé aux patients ce qu'ils préféraient. Donc nous on agit sous location, donc c'est 30€ par mois, mais il n'y a pas d'engagement. Donc en fait, le patient arrête dès qu'il le souhaite et il n'y a pas de frais à mettre au tout début. Hein. C'est vraiment 30€ et puis. Jusqu'à que la personne s'arrête. Et oui, donc il y a certaines caisses de retraite qui prennent en charge le dispositif partiellement. Et oui, on travaille effectivement sur le remboursement par la Sécurité sociale, mais c'est des dossiers très longs.
Aujourd'hui, vous équipez à peu près, à la louche, vous équipez combien de patients ?
400 personnes. Environ 400 personnes depuis le début de la commercialisation.
C'est-à-dire depuis ?
Depuis septembre 2022, voilà.
C'est une bonne progression.
Oui, ça va. Hein ? Ça va, on a des, voilà, c'est plutôt, voilà, c'est un bon chiffre. On espère qu'on pourra en équiper davantage d'autres.
Et alors, on a parlé. Alors, il nous reste à peu près une minute d'émission, mais vite fait, j'en suis désolé. Vous avez parlé de BeatMove, mais après il y a BeatEarth. Quelle différence entre les deux ?
En fait, BeatEarth c'est l'entreprise et BeatMove c'est le.
C'est l'application.
C'est l'application, voilà.
D'accord, ok. Eh bien écoutez, il nous reste à peu près une minute d'émission. Je vous laisse conclure.
D'accord.
Qu'est-ce que vous pouvez dire donc aux personnes donc atteintes de Parkinson ou d'une maladie musculaire importante ? Venez.
Eh ben, de nous contacter. On prendra un plaisir de vous répondre à vos questions.
C'est Euronouve ?
C'est directement sur BeatMove, beatmove.fr.
D'accord.
BEATMOVE.fr. Et là, vous trouverez toutes les informations pour nous contacter.
Très bien. Et la campagne, donc, ce qu'on ne parlait pas de recrutement, mais la campagne de participation, c'est quand la prochaine campagne ?
C'est ça. Alors, en fait, on lance une étude pour justement tester le dispositif chez les personnes âgées pour la prévention des chutes. Donc, on cherche des personnes de plus de 60 ans, qui n'ont pas de problème de santé particulier. On lance l'étude en septembre, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, peuvent directement nous contacter via le site.
Via le site Euronouve.
BeatMove.
Ah, c'est BeatMove là, d'accord. Le site BeatMove, d'accord.
Via le site BeatMove, et il y aura toutes les informations. Voilà, faut envoyer un mail ou laisser un message vocal et nous, on répondra.
Très bien, merci beaucoup. Très heureux de vous avoir accueilli.
Merci à vous.
Merci Mathis. Merci donc à Léonie, à la technique. Et je vous souhaite, chers auditeurs, un agréable après-midi. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle émission. Passez une bonne après-midi. Au revoir.